auditeurs, auditrices de FM+, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Daniel Cassou, qui est chargé de communication à l'Église protestante unie de France. Et avec vous, Daniel, bonjour Daniel.
Bonjour.
Avec vous, nous allons aborder ce synode national que nous sommes en train de vivre à Lezé. Est-ce que vous pourriez déjà, dans un premier temps, nous dire ce qu'est un synode, s'il vous plaît ?
Alors, ce synode, effectivement, a commencé le jour de l'Ascension. C'est un peu un temps traditionnel pour l'Église protestante unie de se retrouver durant le week-end de l'Ascension. C'est un synode, en réalité, au sens étymologique, ça signifie « marcher ensemble ». Et pour une association, c'est un temps privilégié, c'est celle d'une assemblée générale d'église, où les délégués se retrouvent pour faire un peu le point sur ce chemin parcouru durant une année et les perspectives qui s'ouvrent. Donc le synode, c'est vraiment un temps où les uns et les autres se retrouvent, donc les 9 régions de l'Église protestante unie de France, pour aborder le travail qui s'ouvre ou qui est passé. Et là, en l'occurrence, cette année, la réflexion portera sur le thème « Qu'est-ce que signifie vivre d'un appel ? Qu'est-ce que ça signifie être appelé par le Christ ?»
Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour éclairer un petit peu nos auditeurs, qui participe à un synode ? Qui est invité ? Qui est convoqué ?
Alors, là, on s'adresse essentiellement à des délégués qui ont été eux-mêmes élus par des synodes régionaux. Peut-être faut-il expliquer comment fonctionne l'autorité d'une église protestante unie, parce que c'est quelque chose de un petit peu particulier. C'est une gouvernance à caractère démocratique, c'est-à-dire que l'autorité est en référence essentiellement aux paroisses. C'est les paroisses qui ont l'autorité pour mener la vie quotidienne et témoigner de l'Évangile. Et de l'autre côté, il y a le synode national qui donne des règles du jeu et qui permettent à ce que ces règles permettent de bien vivre ensemble et que l'ensemble de ces communautés puissent se retrouver dans une même démarche, une même thématique. Donc, toutes les paroisses sont convoquées lors d'un synode régional. Et donc, il y a en général le pasteur et un délégué laïque. Et ces 9 régions, ces 9 synodes régionaux, élisent une délégation qui va participer au synode national pour donner des orientations pour l'Église. Ce sont des choses, c'est de la gouvernance. Hein. Ça va de voter un budget, comme on le ferait dans une association, c'est-à-dire indiquer quels sont les engagements financiers que l'Église veut avoir au niveau international, au niveau d'une solidarité nationale, et puis entre les paroisses. Et puis, c'est aussi des décisions sur un caractère plus théologique.
Merci. Nous pouvons rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec les 2 thèmes de ce synode. Donc, vous nous avez parlé du premier, vivre d'un appel. Qu'est-ce qui est sous-entendu là-dessous, Daniel ?
Alors, c'est essentiellement une exhortation. Quand on parle de vivre d'un appel, c'est faire référence à notre vocation chrétienne. Comment le Christ, aujourd'hui, est une référence pour les chrétiens et pour ce monde ? De fait, ça pose la question sur quelle est la place du témoignage de l'Église dans notre société sécularisée, comment elle est en dialogue ou pas avec les questions de société. Et les questions de société sont extrêmement nombreuses aujourd'hui, qu'elles soient éthiques, qu'elles soient politiques ou économiques. L'Église peut, par sa vocation, être porteuse d'espérance et aussi, en tant que communauté, apporter un message vers la société.
Merci. Je crois que ce travail va se passer en sous-groupe et en plénière, de manière à ce qu'il y ait une dynamique qui puisse s'enclencher.
Oui, tout à fait. Alors, ce sera un synode un petit peu particulier, tel qu'il a débuté depuis ce jeudi, à savoir qu'il n'y a pas un gros dossier sur cette thématique-là. Il y a juste 3-4 pages qui sont proposées. Par exemple, durant ce samedi, il y aura un parcours de découverte dans le village de Lezé, où les 200 délégués vont passer d'atelier en atelier pour se questionner sur qu'est-ce que ça signifie être témoin de l'Évangile aujourd'hui, comment être Église ensemble et comment la pluralité qui nous unit dans la communion que nous voulons former entre les paroisses peut être une source de richesse. Très souvent, on a le sentiment que la différence est un appauvrissement. Et l'Évangile nous montre que la pluralité, la diversité est une source de richesse et elle peut devenir une source de communion. Donc je pense que les délégués vont, par un travail biblique, par un travail de dialogue et aussi de cheminement, comme avec l'étymologie du mot synode, ils vont cheminer dans ce village pour voir comment eux qui sont avec une délégation, avec une certaine responsabilité d'église, ils peuvent être témoins de l'Évangile là où ils sont placés, dans la grande diversité des paroisses que constitue l'Église protestante unie.
Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, Daniel, parce que pour des gens qui ne sont pas chrétiens, vivre d'un appel, recevoir un appel de Dieu, ça peut sembler complètement soit du conte, soit de la magie, soit... Et est-ce que vous pourriez expliciter cet élément-là pour montrer que c'est en fait une nouvelle vie qui commence pour quelqu'un ?
Tout d'abord, quand on parle de l'appel, c'est prendre conscience que Dieu nous aime et que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Nous n'avons pas de mérite à avoir ni de preuve à faire et de prendre conscience que dans la vie, il y a une personne qui a de l'attention pour nous, qui nous considère comme unique et qui est précieuse à ses yeux. C'est cela, de vivre d'un appel et d'être reconnu par Dieu. Donc Dieu nous aime et c'est cette première connaissance, cette première prise de conscience que nous sommes appelés à avoir. Et cet amour nous invite sur ce chemin de la foi à nous unir et à nous rassembler entre chrétiens, bien sûr, et c'est tout le travail œcuménique, mais aussi dans une approche beaucoup plus globale, celle de l'humanité. Ceux et celles qui sont en quête de sens, ceux et celles qui sont en quête de Dieu, c'est-à-dire qui essayent de découvrir quel est le sens profond de la vie, quel est le sens qui donne une véritable valeur à nos engagements. Et je crois que l'Église nous propose sans cesse de recevoir la parole de Dieu comme une promesse, comme une espérance qui ouvre sans cesse un chemin. Et cette perspective-là est assez réjouissante.
Nous pourrions dire que cet appel n'est donc pas réservé à ceux qui seraient tombés dans la marmite, mais si nous prenons des exemples dans la Bible, et ça va nous introduire au deuxième thème de ce synode, nous nous rendons compte au travers de la lecture de la Bible que des gens comme tout un chacun ont pu recevoir un appel alors qu'ils ne s'y attendaient pas.
Exactement. Dieu ne s'adresse pas à une élite ou à des gens qui sont intellectuels, qui auraient des capacités à comprendre. Il y a plein d'histoires savoureuses dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, où Dieu choisit le plus faible, le plus petit, et celui qui ne pensait pas du tout assurer une mission. Et même parfois, je pense à un petit prophète qui s'appelle Jonas, Dieu le choisit une mission, et il va exactement, mais à l'opposé de la mission que Dieu lui propose. Mmh. Et Dieu est patient dans cette petite histoire, dans ce conte presque mythologique, et où on s'aperçoit que la toute-puissance de Dieu, c'est de laisser beaucoup de liberté à l'homme. Et cette liberté, chacun nous en usons, parfois pour aller dans un sens opposé, et puis des fois dans un sens où nous sentons toute la proximité et l'amour de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu est patient et que Dieu nous accompagne.
Voilà, nous sommes en train de vouloir donner envie à nos auditeurs, auditrices de lire la Bible. Et par ça, je crois que vous avez, Daniel, un certain nombre de choses à nous dire pour ce synode qui est en train de se dérouler sur ce deuxième axe.
Oui, alors ce samedi, pour ce jour, il y avait un lancement d'une nouvelle communication, donc une dynamique pour encourager à la lecture de la Bible. Ça correspond à la fois à toute une série de sondages qui ont eu lieu ces dernières années pour s'apercevoir que la Bible ne prend de sens que si elle est ouverte. Si elle reste dans une bibliothèque, ça a peu de sens. Et donc, la lecture de la Bible qui a nourri des générations de protestants, je pense bien sûr dans les Cévennes, aujourd'hui a tendance à s'étioler. Ou en tout cas, la lecture se renouvelle. Et il y a la nécessité de voir quelle est la place de la Bible pour nous aujourd'hui. Comment elle peut nous aider à la fois renouveler notre spiritualité, mais aussi renouveler nos engagements. Et donc, le travail qui avait été mené aussi au Synode national de Sète en 2015, lorsque le Synode avait réfléchi sur les questions relatives à la bénédiction, et plus particulièrement à la bénédiction des couples mariés de même sexe, les délégués synodaux avaient eu tout un débat sur la question de l'autorité de la Bible. Et quelle est la place que nous réservons à la Bible dans notre spiritualité. Et depuis, il y a eu toute une série de débats et avec la nécessité de relancer sur une période relativement longue, c'est-à-dire 3 années, de 2018 à 2021, tout un temps, j'allais dire, d'appropriation, parce que des outils, il en existe beaucoup, mais de voir comment cette Bible peut être un compagnon pour nous individuellement, pour nous ressourcer, mais aussi en Église, en communauté, voir comment la Bible nous fortifie ensemble dans chacune des paroisses. Donc c'est vraiment une dynamique d'encouragement qui est proposée. Ça se fera par des animations locales et régionales, et il y aura une journée nationale qui va être proposée. La première a eu lieu en septembre dernier en 2017. La prochaine aura lieu le 1er septembre 2018 à Paris sur la question comment lire la Bible en petits groupes, à 2 ou 3, en famille ou dans des groupes de maison. Comment partager la Bible, non pas de manière technique, mais de prendre la Bible, j'allais dire, au fil de l'eau et de voir qu'elle résonne dans notre vie. Comment elle renvoie à des souvenirs, bons ou malheureux, mais comment la Bible nous interpelle. Et de fait, cet encouragement devrait nous rappeler que vivre d'un appel, c'est certainement se fonder dans cette parole de Dieu qui se renouvelle sans cesse pour ceux qui veulent la recevoir.
Alors, nous ne manquerons pas d'informer nos auditeurs, auditrices de cette manifestation en septembre 2018 qui aura sûrement lieu à Montpellier et dans les environs. Est-ce que vous pourriez nous dire, Daniel, je crois qu'il existe diverses traductions de la Bible pour peut-être mieux nous parler aujourd'hui, pour qu'elle résonne peut-être dans un langage un petit peu différent.
Alors, c'est vrai que depuis au moins 50 ans, il y a eu d'énormes efforts de traduction de la Bible. Je pense à celle qui a été la plus marquante juste après Vatican II, a été la traduction œcuménique de la Bible qui a permis à des catholiques, des orthodoxes et des protestants de se retrouver sur un texte unique. Et donc cette traduction œcuménique de la Bible a permis à de nombreux groupes d'animation de se retrouver. Mais ces dernières années, je pense à l'Alliance biblique française qui a aussi beaucoup travaillé, à travailler dans la perspective de voir comment la Bible pouvait être un livre pour les étudiants, pour des jeunes. Et ça a été une traduction qui a été proposée au départ pour l'Afrique. Et la Bible, le sous-titre qui était donné, c'était « Paroles de vie ». ». C'était une Bible avec un nombre de mots limité. C'était pour des gens d'origine étrangère qui utilisaient le français en langue étrangère. Donc, je crois qu'il y avait 10 000 mots français. Et on s'est aperçu que cette traduction, bien sûr, passait très très bien en pays franco, en Afrique francophone, mais surtout aussi en métropole. Et donc, cette traduction-là a été amplifiée avec une autre Bible et avec tout ce qui est comme outil de dialogue aujourd'hui, je pense au web, aux réseaux sociaux, avec une autre traduction qui s'appelle The Bible. Alors, c'est un petit clin d'œil. The, c'est avec un Z, E, c'est pas The Bible, c'est The Bible. Et cette Bible est vraiment un outil, je vais dire, de catéchèse où on retrouve à l'intérieur des petits commentaires, des petits flashs pour comprendre la géographie, le contexte, et surtout avec la traduction, c'est une traduction au présent. Ça aussi, c'est intéressant que la Bible soit au présent du lecteur.
Est-ce que si nos auditeurs, auditrices avaient envie, tout simplement, par curiosité, dans un premier temps, de s'intéresser à la lecture de la Bible, avez-vous un site peut-être à leur conseiller ?
Alors, l'Alliance biblique française propose de nombreuses Bibles, les librairies protestantes aussi. Et je pense que sur l'Alliance, sur biblio.net, on va trouver toutes les formes de, toutes les traductions en français, mais aussi en langue étrangère, parce que l'Alliance internationale a traduit dans de multiples langues, et il y a des Bibles à tous les prix. Je crois que ça aussi, c'est important. Je crois que la Bible la moins chère doit être à 1,99 €. C'est une Bible en papier journal, mais parfois, c'est largement suffisant. Ça, j'allais dire, c'est la Bible du routard. Sinon, on peut avoir des Bibles haut de gamme, avec du cuir, des tranches dorées, des Bibles d'études avec de nombreux commentaires. Donc, chacun pourra trouver, si c'est une première lecture, prendre une Bible relativement simple. Et je pense que la Bible en français courant peut être une très bonne porte d'entrée. Pour d'autres qui voudraient renouveler, qui ont déjà des traductions peut-être un petit peu anciennes, d'aller vers d'autres Bibles, qu'elles soient écuméniques, comme je le pointais avec la traduction écuménique de la Bible, ou la nouvelle Bible, la nouvelle Colombe, qui sont d'autres traductions protestantes. Voilà.
Merci en tout cas pour ceux qui habitent Montpellier et les alentours. Vous en avez à la CLC, qui est près de la gare, une petite librairie chrétienne qui a effectivement diverses traductions de Bible et vous pouvez comme ça les feuilleter, les voir. Et puis pour ceux qui veulent le faire sur Internet, je crois que c'est facile aussi d'accès.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les quelques minutes qui nous restent, Daniel, pour ce synode qui a commencé donc jeudi de l'Ascension, qui se terminera demain, dimanche, par un culte. Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, être ajouté par rapport à cette information de ce temps fort dans l'Église protestante unie de France ?
Le synode, c'est quand même un temps festif, un temps où les délégués ont de la joie à se retrouver ensemble, et à poursuivre des réflexions qu'ils ont menées dans les synodes régionaux. Ça, c'est quand même un temps vraiment de réjouissance et puis de reconnaissance aussi pour se placer sous le regard de Dieu avec une équipe d'aumônerie qui marque chaque début et fin de journée. C'est aussi, et ce sera, ça s'est vécu hier soir, vendredi, un temps de reconnaissance pour les serviteurs qui sont partis, que ce soit des pasteurs qui étaient engagés dans l'Église et qui sont décédés, mais aussi des laïcs. C'est ce temps de reconnaissance, cette chaîne humaine qui, depuis 2000 ans, marque la vie de l'Église et qui est importante. Dimanche 20, donc, il y aura le culte de fin de synode qui permettra d'accueillir 5 nouveaux ministres qui ont eu une reconnaissance et une ordination dans leur paroisse. Et puis, à partir du 1er juillet, il y aura 14 nouveaux pasteurs qui vont débuter leur chemin pastorale avec les églises qui leur à qui ils seront affectés. Voilà. Donc c'est un moment très privilégié. Et puis avec ce temps autour de la lecture de la Bible, je pense que les paroles échangées, les convictions seront un temps vraiment touchant et fort pour chacun de nous.
Et nous pouvons donc dire que ces nouveaux ministres ont eux aussi, à un moment donné, reçu cet appel de Dieu, alors.
Exactement. Cet appel de Dieu, il est perçu et accompagné durant les 5 années de la faculté de théologie. C'est lors de tout le travail qui est mené à la fois sur un plan universitaire à l'Institut protestant de théologie ou dans les facultés de théologie protestante à Strasbourg ou à Aix-en-Provence. Ce travail universitaire, il est essentiel, mais il y a aussi un accompagnement que fait la commission des ministères. Et je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui engagés qui ont eu un appel à la suite d'un camp de jeunes, d'un week-end de catéchisme. Et c'est aussi cela que les paroisses puissent, j'allais dire, détecter, appeler, être décomplexées pour appeler des gens à un service. Ça peut être un service pastoral, ça peut être un engagement dans l'Église par rapport à des missions qui peuvent être courtes ou plus importantes. Et ça peut être un service civique pour des plus jeunes. Et répondre de cet appel, c'est aussi voir cette grande diversité. Et ça aussi, c'est un des éléments où on peut s'apercevoir que l'Église bouge, l'Église est en mouvement et elle est porteuse de vie.
Merci beaucoup. Je redis pour nos auditeurs, auditrices, que nous venons d'être en lien avec le pasteur Daniel Cassou, responsable de la communication au niveau de l'Église protestante unie de France, qui nous a parlé de Lezay, dans le Poitou, où il est en synode. Donc Daniel, bonne continuation de synode et merci à vous pour ce partage avec nous sur FM+, 91 MHz. Au revoir.
Bonne journée à vous.
Merci.